Chapitre 10. Coincé entre les murs de la ville, Mara se sentait de plus en plus mal. Rôdant dans les rues entre les bâtiments, elle rêvait de courir et de chasser. Taraudée par la soif de sang, elle parvenait pourtant à se contrôler. Via son lien avec la panthère, Nietzsche avait eu la même impression d'étouffer tandis qu'elle travaillait avec les rebelles dans les catacombes. Depuis le réveil des soldats d'Outros, le sentiment d'être piégé s'était encore aggravé. Partout, la population se préparait à subir un long siège. La magicienne, elle, se demandait combien de temps Outros et ses troupes tiendraient le coup. Que voulait le général? 3 jours après le réveil, les antiques soldats s'échinaient encore à reconstruire leur camp. Un prélude à un assaut en règle? La nuit tombée, des coups de poing continuaient à pleuvoir sur le mur d'enceinte. Des années plus tôt, quand Jagang avait lancé ses hordes à la conquête du Nouveau Monde, il exigeait qu'on batte nuit et jour du tambour devant les cités qu'il entendait conquérir. Même s'il mettait parfois des mois à arriver sur les lieux, ses roulements obsédants minaient les nerfs des défenseurs. Outros visait sans doute le même objectif, et avec tant de soldats, les rotations pouvaient se succéder pendant des années. Pour l'heure, Nietzsche résidait toujours dans la grande villa. Depuis que Thora et Maxime n'y habitaient plus, elle avait conservé sa chambre, comme Bannon et Nathan. Nerveuse, Mra sortait se défouler toutes les nuits. Chassant des rats, elle sautait de toit en toit pour le simple plaisir d'utiliser ses muscles. Par respect, Nietzsche refusait de lui mettre une laisse ou de l'enfermer dans une cage. En principe, la panthère ne risquait pas d'attaquer des gens, car elle savait que c'était mal. Cela dit, elle restait un fauve. Si on la menaçait ou la provoquait, elle se déchaînerait et c'était normal. Elle aurait dû gambader dans la forêt en quête de proie, mais comment la laisser sortir avec les multitudes de prédateurs à deux pattes qui grouillaient dans la plaine? Assise au bord de son lit, Nietzsche contemplait les lentes ondulations des rideaux de soie. En plus du lointain martèlement, elle entendait les bruits d'une ville la nuit. L'écho des harangues des colporteurs, la cacophonie qui montait des tavernes, les cris des yaksens de soie dans les bordels, les mélodies des musiciens des rues. Chacun à leur façon, les citadins s'efforçaient de continuer à vivre malgré la menace qui pesait sur eux. Pas encore sortie ce soir, Mara vint frotter sa tête contre les genoux de sa sœur humaine. Aux anges, quand Nietzsche la gratta derrière les oreilles, elle ronronna de bonheur, puis traversa la chambre et alla se camper sur le balcon où elle tendit à son tour l'oreille. Humant l'air, les moustaches frémissantes, elle revint se faire cajoler. Hordes ennemies ou pas, elle brûlait d'envie d'être libre. « Dans la plaine, tu serais en danger », lui expliqua Nietzsche. Que faisaient Outros et ses hommes? Que mijotaient-ils? Pourquoi aucun émissaire n'était-il venu négocier les conditions d'une reddition? Comme pour dire que le danger était aussi grand à Ildakar, Mara grogna sourdement. Avec ses griffes, son énorme gueule et ses réflexes de félin, la panthère était tout à fait capable de prendre soin d'elle-même. Même si leur lien était plus fort en rêve, la magicienne et sa sœur Féline communiquaient très clairement et elles se comprenaient très bien. Une idée lui ayant traversé l'esprit, Nietzsche ne put s'empêcher de sursauter. En liberté, hors de la ville, Mara se révélerait très utile pour les défenseurs. Devenue les yeux et les oreilles de sa sœur humaine, elle serait la meilleure espionne dont on pourrait rêver, un félin furtif capable de se glisser dans la nuit sans un bruit. Se penchant en avant, Nietzsche posa les mains sur la tête de la panthère qui leva sur elle ses yeux jaunes. « L'armée d'Outros nous assiège, tu le sais. Nous voyons son camp, mais ça ne suffit pas pour mettre au point une stratégie. Tu voudrais bien être mes yeux? Si je te libère, seras-tu prudente? Éviteras-tu tous les risques inutiles? Je te demande d'observer, pas de te battre. » Mara agita la queue avec enthousiasme. Du coup, Nietzsche prit sa décision. « Bon, on y va. Le jour reste dans les collines, à l'abri des arbres, mais sur des positions d'où je pourrais voir nos ennemis à travers tes yeux. La nuit, n'hésite pas à patrouiller. Te voilà bombardée, espionne dans le camp d'Outros. » Toute joyeuse, Mara sortit de la chambre et attendit dans le couloir. Sentant son propre cœur battre la chamade, Nietzsche devina que celui de sa sœur Féline s'emballait aussi. « Suis-moi. Nous allons chercher une poterne, là où les soldats ennemis ne martèlent pas la muraille de coups. Au fond, tu seras peut-être plus en sécurité ici que dehors. » En plus des portes principales, prises d'assaut par les hommes d'Outros, Ildakar disposait de plusieurs sorties dérobées, donnant sur la falaise ou sur les marécages. Des entrées plus ou moins secrètes réservées aux marchands et aux voyageurs importants. Dans les rues où grouillaient des chats en quête de proie, l'humaine et la panthère avancèrent d'un bon pas, Mara jouant les éclaireuses. Tout à fait au nord de la cité, la muraille s'incurvait brusquement pour s'adapter à la configuration de la falaise. À l'endroit qu'on lui avait décrit, Nietzsche repéra une poterne. Avec son don, elle la déverrouilla. Ses portes étant très mal dissimulées, aucun homme d'Outrousse ne devait les garder. Tirant le battant de fer, la magicienne sentit aussitôt monter à ses narines un air lourd d'humidité. Au pied de la falaise, les flots du fleuve Chasse-Corbeau roulaient majestueusement. Mara se tendit d'anticipation. Partageant l'excitation de sa sœur féline, Nietzsche lui posa une main sur l'encolure. « J'aimerais venir avec toi, mais pour l'instant ma place est en ville. » La magicienne se pencha et enlaça son amie qui en ronronna d'aise. « Phil, je serai toujours avec toi, tu le sais. Nous ne sommes pas sœurs pour rien. » Quand la panthère s'élança, Nietzsche eut un pincement au cœur. La reverrait-elle un jour? Dehors, le danger rôdait, mais Mara aussi était redoutable. Songeuse, la magicienne observa les centaines de feux de camp qui brûlaient dans le lointain. Combien d'arbres avaient péri pour les alimenter? Vu de loin, ces lucioles faisaient penser aux yeux rouges des chiens à cœur, des monstres venus du royaume des morts. Chaque feu représentait assez d'ennemis pour raser un gros village. Si tous ces soldats se lançaient à l'assaut de l'Ancien Monde, ils auraient de bonnes chances de le conquérir. Nietzsche devait trouver un moyen de les en empêcher. Sans quitter les feux des yeux, elle tendit l'oreille pour capter les sons lointains du camp. Mara devait déjà y être, se faufilant entre des guerriers hostiles. Pourtant, c'était elle qui avait la meilleure part désormais. Longtemps après minuit, de retour dans sa chambre, Nietzsche essaya de dormir un peu. Même pour une magicienne, c'était indispensable. Elle aurait voulu ne pas rêver, mais comme ça ne dépendait pas de sa volonté, elle se retrouva vite dans l'esprit de sa sœur féline. Mara se réjouissait d'être en liberté. Après avoir étouffé en ville, elle gambadait pour le simple plaisir de sentir jouer ses muscles. Même si elle avait grandi en captivité à Ildakar, son environnement naturel, c'était le grand monde. Dressée pour tuer des adversaires dans l'arène, Mara était couverte de runes protectrices gravées au fer rouge sur sa peau. Mais qu'avait à craindre de la magie une panthère libre? Avec les deux sœurs félines de sa troca, elle s'était enfuie des cages du terrible chef des dresseurs d'Ildakar. Fuyant la cité, les trois fugitives avaient erré autour de surplomb du monde jusqu'à leur rencontre avec Nietzsche et ses compagnons. Les humains avaient tué les deux sœurs de Mara. Grièvement blessée, celle-ci avait été sauvée par Nietzsche. Via la magie de guérison, un lien puissant s'était tissé entre la féline et l'humaine. Aujourd'hui, Mara n'aurait voulu pour rien au monde qu'il soit brisé. Enfin dans son élément, elle courut dans les collines, se tapit derrière des arbres, affola des oiseaux nocturnes et repéra des proies dans les buissons. À un moment, elle sentit l'odeur caractéristique d'autres fauves de combat, mais elle ne les attaqua pas. Ces bêtes qui avaient fui Ildakar à la faveur des émeutes feraient un excellent gibier, mais elle verrait ça plus tard. Pour l'instant, elle était affamée de liberté, pas de chair fraîche. Cela dit, elle ne perdait pas de vue ce que Nietzsche attendait d'elle. Selon le plan, elle rôderait autour du camp pour que sa sœur le voie grâce à elle. Entre ses draps de soie, les yeux de Nietzsche imitaient les mouvements de ceux de la panthère. Ensemble, les deux sœurs découvrirent l'étendue de la menace qui pesait sur Ildakar.